Bonsoir et merci d'être venu. Donc ce soir, on accueille Federico Nicolao qui va modérer cette rencontre avec Laurent et Cyrine Berger. Donc Federico est écrivain et philosophe, et Laurent et Cyrine Berger donc, sont à la fois architectes, plasticiens et scénographes. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus puisque vous allez en dire plein de choses. Et je vous laisse la parole.
Oui, je ne sais pas si ma tâche sera celle de modérer cette rencontre. En réalité, l'idée, c'était celle vraiment d'une rencontre, d'une conversation avec eux, d'une discussion, à la suite de l'exposition, évidemment, que vous avez tous connu et vu. Et aussi, à la une d'une espèce de sympathie qu'on a pour cette envie de traverser des champs ou des domaines très différents et à la fois d'essayer de se situer à l'intérieur de ces territoires. C'est de les traverser, mais de ne pas les ignorer dans leurs règles, dans leurs dispositifs. Et c'est vrai que moi je connais le travail de Cyril et de Laurent un peu. Je les connais les deux, surtout par certains de leurs œuvres, mais me manque beaucoup de passages parce que notre rencontre s'est faite sur des hasards biographiques. Et donc, j'étais très curieux, j'avais envie de profiter de cette rencontre pour pouvoir leur poser des questions, pour les connaître mieux et aussi pour donner moyen à vous de découvrir sous une autre lumière l'exposition qui se propose ici chez Rosa Scape. Alexandra même nous a proposé de repartir d'un passage du texte avec lequel j'avais essayé d'introduire un tout petit peu leur exposition, leur rapport au lieu et leur rapport à ces différentes disciplines. Et je disais que dans ce texte, j'évoquais le fait que ça faisait un certain temps que dans leur travail et dans leur réalisation, ils avaient dépassé les séparations entre art, design, architecture, scénographie, tous des domaines dans lesquels ils exercent, et qu'ils avaient dépassé cette séparation aussi parce qu'ils étaient un peu persuadés que là où dans chaque discipline quelque chose perd et trouve une identité, c'est-à-dire quelque chose se frotte à une limite ou se confronte à une perte de pouvoir, une perte de maîtrise, il y a quelque chose d'essentiel qui advient et qui paradoxalement reconstruit justement ce qui vient de se défaire ou de se démonter ou de perdre de traces. Donc se rencontrer, ça voulait dire aussi remettre à l'honneur un peu une idée des arts non hiérarchisés dans lesquels il n'y avait pas d'art majeur et d'art mineur, et aussi tenter à la fois de voir par quelle subtilité, par quelle force, par quel chemin ces choses se précisaient. Et leur tâche en tant qu'artiste, on va dire, était celle d'aller vers les choses et d'être pris dans une sorte de démesure de ce qu'ils rencontrent. Soit-il l'idée de perspective, l'idée d'un sol, l'idée d'une forêt, d'un bois, etc. Donc la première question que je voulais leur poser, c'était comment justement il s'est situé par rapport à ces différentes disciplines. S'ils pouvaient nous en dire un peu plus, ou en tout cas comment ils avaient traversé cette aventure de créer une exposition pour ce lieu en ce moment.
Il y a deux questions. La question de la transversalité, en l'occurrence, on l'a faite par hasard au départ, tout en ayant d'abord quand même une réflexion comme ça qui pourrait unifier les domaines, c'est la question de l'espace. On avait envie toujours de mettre en place comme ça des scénarios dans le travail et de développer des questions qui s'articulaient à la fois dans différents champs sur la question de l'espace et de l'expérimenter, cette question de l'espace, à travers soit des rapports à la fiction, des rapports à l'architecture, des rapports à l'art, est-ce que l'espace résonne à chaque fois différemment ou pas. Donc c'est un peu des mises en place de rapports de médium.
Ça, du point de vue théorique, et tout simplement du point de vue biographique, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment vous êtes arrivé à ces disciplines différentes? C'est-à-dire, si on l'encarne un peu dans les sensibles, à quel moment l'un et l'autre, parce que je sais, vous venez en plus de, si je ne fais pas erreur, de deux formations différentes. Donc, comment ça s'est construit le rapport à l'espace?
Alors, là, moi, en l'occurrence, c'est vrai que je venais des arts décoratifs, là où j'ai plutôt eu une formation sur la question du théâtre. Même si l'école, c'est assez passionnant pour ça, c'est qu'elle est ouverte au genre. C'est pas les beaux-arts non plus, mais il y a la question de l'appliquer, du rapport à l'appliquer. Donc c'est venu essentiellement par, comme ça, la question de la théâtralité au départ, et de la mise en jeu de l'espace au théâtre. Voilà, en parallèle, Cyril a fait des études d'architecture.
Donc, effectivement, je pense que même si c'est dans. Il y a des enjeux qui peuvent être tout à fait. Ou des désirs qui peuvent être tout à fait communs à des champs qui ne sont pas les mêmes, mais qui suscitent les mêmes. Les mêmes questions en fait. Le fait de peut-être répéter finalement presque les mêmes projets mais dans des champs différents, c'est une manière de les repréciser ou de les incarner aussi différemment ou de les repréciser, peut-être c'est ça. Mmh. Enfin, sur l'idée de finalement de. En même temps, on a la complexité du truc, c'est qu'on on a des formations différentes, mais on n'a pas chacun les deux formations. Donc c'est compliqué de en même temps de se dire qu'on. On a les mêmes. Je pense que c'est ça, finalement, on a à peu près les mêmes désirs de travailler dans un rapport à la question de l'espace, et que finalement, c'est peut-être au début, alors si on prend l'histoire d'un point de vue biographique, alors peut-être qu'il y avait au préalable d'autres raisons pour lesquelles j'ai choisi l'architecture, mais peut-être que finalement, la conséquence, c'est plutôt le fait qu'on ait envie de. Travailler cette question d'espace, et finalement le champ de l'architecture ou de la scénographie est finalement un peu accessoire. Quoi. Enfin, et même si ça permet effectivement des résolutions différentes. Enfin,
Est-ce qu'on a l'impression que vous en êtes vraiment habités tous les deux, en tout cas en connaissant votre travail commun, vient quand même la curiosité de savoir comment vous travaillez, tout simplement et tout bêtement de savoir comment ça se passe. Peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard sur cette question-là, parce que comme ça on aura eu moyen quand même de la situer un peu mieux. Mais c'est vrai que malgré tout, une des grandes curiosités qui quelque part s'active quand on voit vos réalisations, c'est de savoir comment ça se passe concrètement après dans le travail. Mais on y reviendra plus tard, parce que lui, il m'a relancé sur cette question de l'espace qui m'intéresse aussi. Et qui me fait penser à un petit passage que j'avais isolé dans le livre de Jean-Christophe Bailly, un livre de 1990, donc un livre qu'il a écrit à une époque qui n'était pas du tout connue, et encore moins dans les contextes de l'art. Donc aujourd'hui, on évoque son nom et son activité à proximité de plusieurs artistes. Et déjà en 1990, en écrivant au sujet de Bernard Bonino, qui est un artiste qui s'occupait beaucoup de l'espace à cette époque-là, il semblait un lecteur très lucide déjà de l'histoire de l'art, et parlant d'une question justement d'espace, de comment Bonino se positionnait par rapport à une recherche dans l'espace moderne, il notait que quelque part, l'espace moderne s'était affirmé depuis un certain temps qu'il avait pris il avait succédé à la représentation classique, on va dire, et que la question de comment s'agence un espace était devenue la question des avant-gardes, la question de toute l'histoire de l'art dans les deux derniers siècles. Et c'est curieux parce que à ce moment-là, très timidement, il disait ou il avançait comme hypothèse que cette question de l'espace traitée de cette sorte. Donc, sous un angle qui pouvait être explicité comme ça, est-ce qu'on peut considérer qu'après deux siècles de travaux sur l'espace moderne est institué, ou est-ce que justement cette multiplication de recherche de, ou d'enquête sur l'espace moderne laisse ouvert le champ. Il disait, poser la question de cette manière-là lui semblait déjà déposer la question de la postmodernité comme une sorte d'anecdote dans un coin de l'art moderne. Et ce n'est pas par là qu'il évacuait la lecture postmoderne, mais il s'est rendu compte que examiner à la loupe de l'enquête sur l'espace et des enquêtes différentes sur l'espace que des disciplines différentes avaient quelque part encouragé. Je pense au théâtre, je pense à la danse, je pense évidemment au dessin et à des choses aussi plus classiques. Quelque part, la question de la postmodernité était anecdotique, c'est-à-dire prenez le statut d'anecdote. Or, quand Jean-Christophe Bailly parle d'anecdote, il n'est pas forcément dans le mépris. Il a certainement en tête ce que Benjamin faisait de l'anecdote, donc il y trouve aussi sa valeur. Mais il me semble que quelque part, vous, par rapport à la question de l'espace, vous vous situez de la même manière. C'est-à-dire que j'ai eu quelques conversations, mais à peine amorcées avec Cyril, où on parlait de Branzi, par exemple, ou d'autres designers italiens, et il me semblait que pour vous aussi, votre recherche, soit-elle dans le champ architectural, dans celui du théâtre, dans celui de l'art, se situer du côté de la modernité. Est-ce que...
Oui, enfin, c'est assez... Il y a une chose comme ça, on est très peu en rapport avec la question de la citation, de prendre, de fabriquer, de coller, etc. C'est vrai qu'on a toujours le désir d'inventer de nouvelles situations, que ce soit, si on veut revenir un peu sur les champs dans lesquels on explore... Ça va à la fois la question du théâtre, de l'art, de l'architecture, mais aussi la question de l'urbanité, de l'urbain. Et même à cet endroit-là, l'ambition est toujours d'essayer d'inventer peut-être des projets comme ça, qui déploient des nouvelles stratégies urbaines presque, mais qui ne sont pas justement comme des montages postmodernes. De l'invention d'espace. Oui, c'est vrai que c'est assez juste à ce moment-là.
Et il y a un dialogue qui s'est fait entre vous, justement, et par exemple des personnes comme Branzi ou d'autres. J'étais très curieux de savoir quels étaient les repères, quelque part, que vous choisissiez, si vous deviez quand même vous adresser quelque part à des artistes qui aujourd'hui traitent cette question et qui vous touchent particulièrement. J'étais très curieux de savoir lesquels.
Oui, bah, Branzi, on le cite notamment pour les colonnes ici qui sont présentes, comme cette espèce de, enfin, l'une des idées de ce projet, c'est comme ça une espèce de grille posée dans un espace qui s'étend, qui s'étale, qui se démultiplie comme un corps étranger moderne dans une enveloppe ancienne.
Ouais, en tout cas, il y a ce rapport-là de. Comme Branzi, on ne s'est pas rencontré, mais il y a mais effectivement, enfin, ce qui est intéressant, c'est il y a ce rapport comme ça de non-hiérarchie entre une accumulation d'objets qui sont un peu perçus comme ça, dans la même valeur. Enfin, la question des chaînes ne préjuge pas vraiment de la qualité de chacun de ces objets. Alors, je ne sais pas l'analogie va jusqu'à notre propre pratique, qui serait celle de manière peut-être très naïve ou alors très prétentieuse, pratiquer autant la scénographie que l'exposition. Je pense qu'il y a un petit peu comme ça, l'idée que l'exposition est elle-même un objet qui fait partie d'un rapport urbain, qui fait même partie d'un environnement architectural et qu'il y a comme ça, oui, c'est à la fois une exposition, mais c'est aussi finalement un moment, une architecture, au moment où l'exposition existe, c'est déjà aussi l'invention d'une architecture, au même titre qu'effectivement quand on livre avec Cyrano l'extension du centre d'art de la Civière, et donc effectivement, j'ai l'impression que justement plus on démultiplie les contextes, plus on permet d'en plus s'affranchir pour le coup de l'anecdote de la pratique qui serait celle du théâtre ou de l'architecture qui est finalement, c'est vrai qu'elle n'est pas importante, mais alors c'est toute la difficulté, c'est d'être assez précis aussi pour pas faire trop amateur et à pratiquer un peu de tout comme ça, parce que t'as pas la force d'aller jusqu'au bout dans chaque champ, mais je crois que c'est ouais, ça, ça Enfin, c'est intéressant.
Ouais, ça nécessite là, quand même une connaissance.
Une grande connaissance un peu, de...
un peu du domaine, mais. Mais finalement, où on applique des scénarios qui sont assez similaires aux scénarios qu'on applique dans les autres domaines. Il y a chose, enfin, quand on traite la question du théâtre, on se pose peu la question du décor, etc. Mais plutôt des questions de logique, de mise en place d'espace qui soit au service de la représentation, mais aussi simplement qu'est-ce que une architecture dans un cadre de représentation. Et donc c'est des scénarios qui sont vraiment qui sont assez similaires quand on met en place une architecture. Il y a vraiment, voilà, c'est à chaque fois comme des transferts de scénarios d'un domaine à un autre et de les tester.
C'est curieux que tu parles de scénario, parce que ça me fait penser à une autre question qui m'a habité en pensant à vous, c'est la question de la fiction, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a en question dans les trois, dans les plus, bon, ce n'est pas que trois, mais dans les différents domaines qu'on a évoqués avant, aussi bien dans l'urbanité d'ailleurs, il est souvent question de fiction. Il y a comme s'il y avait un foisonnement de fiction possible. Et qui justement, dans ces fictions possibles, dans le heurte ou dans l'écart qui s'est créé par rapport à notre lecture du réel et ce qu'elles peuvent entrouvrir là-dedans, se nicher ou se cacher des solutions plastiques et des solutions de traitement de l'espace.
Enfin, cette question forcément de fiction, c'est assez compliqué à traiter parce que elle est
inhérente au domaine.
Ce qu'on voit très bien comment c'était surtout un moment historique, enfin des années 90, enfin, ça a été,
ouais.
Enfin, je veux dire, même dénoncer que forcément, je crois qu'il y a à peu près aucun artiste qui travaille pas même sur cette idée de fiction, quoi. Donc c'est en fait ce qui, mais c'est vrai que ce qui est
moins, oui, sauf que d'habitude, disons, cette manière de travailler sur la fiction, c'est
pas pour invalider le fait,
non, non.
C'est plutôt pour dire comment en fait, moi maintenant c'est ce qui me semble assez important, c'est plutôt comment la fiction peut être la conséquence de mise en place la plus précise d'éléments, mais dont on prédispose, dont le scénario, la fiction n'est pas elle-même univoque, quoi. C'est-à-dire que comment ne pas kidnapper un certain nombre de médiums, de dispositifs, pour leur faire raconter de force une histoire déjà préalable,
oui.
Mais plutôt comment, par rapport à cette fiction, enfin moi ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est comment elle peut émerger, ou alors peut-être pas, et puis surtout différemment, et comment ça fait écho différemment dans
surtout faire dans rebondir, finalement, par exemple, si le projet de fiction pour le programme du 104, ça avait été plutôt de prendre des fictions pour tester les usages au maximum de ces projets, et elles sont là pour les pousser à leur extrême, à des scénarios extrêmes comme ça. Donc elles sont un outil supplémentaire pour avancer. Il y a une chose oui, comme ça, qui est plus comme un rebond du travail, comme un deuxième temps sur le projet. De la même manière, le globe ici est comme des rapports on part sur comme ça un objet qui pourrait être scientifique, le globe de représentation du monde, mais on avait envie quand même de lui apporter une dimension comme ça fictionnelle, de la pousser, de la tester via cette commande à Bertrand Westphal. Voilà, mais c'est pas une plongée totale, il n'y a pas une immersion absolue, c'est plus comme des...
C'est comme un déclencheur.
Un déclencheur et une mise en parallèle, toujours. Ouais. C'est-à-dire que les pièces, elles sont toujours autonomes, elles restent en tant que telles. Il y a vraiment, on peut les percevoir en tant que telles, ouais. Et les fictions leur donnent comme un autre aspect, comme...
Notre clé de lecture.
Oui, exactement.
Et à la fois, même sous la naissance de ces pièces même, il y a quand même l'idée de s'appuyer sur l'idée que c'est des espaces à fiction. Peut-être pas d'une fiction précise, mais ou pas. Je sais pas,
si,
parce
si,
que
si,
je
si,
pense
si,
aussi
si.
La scène théâtrale...
Mais naturellement, le plateau est un espace de fiction. Mais on a tendance, quand on traite le plateau, au contraire, de défictionnaliser l'espace, puisque...
Oui,
voilà. Ben voilà, pour ne pas alimenter cette chose-là.
Un peu comme le globe, évidemment, c'était... Il voyait bien comment même le fait de l'énoncer, même toi, t'avais une réaction. Enfin, c'était une pièce qui, effectivement...
Ah, c'est la pièce qui m'a plu,
tout le monde arrive à tellement se projeter dessus qu'effectivement, là, il fallait effectivement enlever un maximum d'informations. Enfin, ce qui aussi suscitait forcément la projection d'imaginaire, comme ça.
Oui, parce qu'il y a aussi toute la question de l'imagination. Ça, on la laisse un peu de côté pour l'instant, mais c'est vrai qu'elle est là sous-jacente. C'est-à-dire que vous en faites quelque chose de très particulier. D'un côté, vous en jouez pour que justement l'esprit puisse s'accrocher à l'objet ou à ce que vous construisez dans l'espace. De l'autre côté, comme une réduction qui immédiatement enlève les choses de manière telle qu'on ne puisse pas justement... je dirais pas qu'on ne puisse pas nommer définitivement les choses.
Oui,
c'est comme si ces contours...
Il y a un flottement toujours.
Ouais.
Ça, je suis assez convaincu que c'est un scénario qu'on essaye de tenir parce que la plongée totale dans un imaginaire fictionnel comme ça, parfois qui produit justement chez certains artistes trop grande liberté qui devient une espèce de gratuité, quelque chose comme ça, on a envie de retenir.
Ouais.
Ces potentialités, on leur donne juste des démarrages.
Ouais, 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 ouais. Et je pense aussi, c'est peut-être aussi lié à ce que Tiberghien dit, limite de l'espace, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est juste vraiment, comme tu dis, un démarrage, c'est juste un petit départ, que l'imagination, sans imagination, il n'y a pas de vision, mais que c'est juste, il s'agit juste de constituer les conditions d'imaginer. Et après, si on revient un peu, effectivement, à Vassilière, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce que j'ai vu samedi, c'est-à-dire cette extension du centre prévue pour les bourses, pour les artistes qui occupaient cet espace. Je pense que suite à cette visite, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas du tout compris avant. En fait, et qui n'est pas dans le texte, donc j'ai quelque part part de regret. Parce que je me suis rendu compte que vos formes sont très conclues, ou en tout cas sont très conséquentes toujours, avec vraiment un soin dans la finition, dans l'idée de porter vraiment une possibilité plastique jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, je me suis rendu compte que ce qui m'impressionne chez vous, et là pour le coup ça vaut rétrospectivement aussi pour des œuvres que j'avais vues avant, c'est que, en fait, il y a une aisance avec laquelle vous mettez en place des opérations de démontage, je dirais. Et de démontage de quoi ? Je dirais de toute une série de rhétoriques. C'est-à-dire que, malgré ma tentative répétée pour deux siècles d'enlever à l'art sa rhétorique, cette rhétorique, elle est toujours là. Elle est toujours là par les types qui hantent notre imaginaire, qui hantent notre représentation du réel. Et en voyant les résidences, je me suis rendu compte qu'effectivement, parce qu'expressement, vous aviez démonté la rhétorique du château. C'est-à-dire que d'un côté, ces résidences se logent dans un château. Le château était montré en tant que tel de l'extérieur, même accentué dans son rôle de château. Chose qui n'était pas facile à faire et qui a demandé tout un travail qui s'est fait avec Chiara Parisi d'ailleurs, qui est ici, mais c'est vrai, non, mais c'est des choses qui peuvent se faire seulement si on a un interlocuteur qui accepte ce type de jeu, sinon ça ne peut pas se faire. Et donc il faut le dire, il faut le dire quand même, parce que la même chose faite ailleurs ne serait pas faite de la même manière, probablement. Mais d'un côté, votre rôle a consisté à dire, vous voulez quelque part dans la région, là, je vais grossir les traits, votre château, ben on va vous le faire, château. Et quand on regarde le château, c'est vraiment le type du château même. Et après on rentre, bon, je raconte pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'étaient pas là, on pénètre à l'intérieur de ce bâtiment et tout d'un coup on est exactement dans la hiérarchie inverse. C'est-à-dire que derrière le château, ce qui est donné à voir dehors comme, expressément comme un château, se cache une résidence qui fait tabula rasa complètement du château, dès qu'on rentre. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est dès qu'on rentre que cela se... C'est que c'est évident qu'on n'est pas dans un château et que cet espace-là recèle quelque chose d'autre. Bon, je passe sur l'idée de la fonction, c'est-à-dire qui est quand même importante. c'est comme ça aussi parce que la fonction de ce bâtiment n'est pas ou n'est plus celle d'un château. Mais malgré tout, si vous me l'accordez par rapport même à d'autres expositions, vous à d'autres projets, même par rapport à des espaces très connotés, il y a toujours l'impression que vous créez des lieux tiers par rapport, d'un côté, à l'image, au type, quelque part, sur lequel vous partez, sur lequel vous travaillez, et, disons, l'espace tel qu'il est expérimenté par les visiteurs. Je m'explique mieux. Par exemple, on rentre ici. Normalement, ici, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on est dans un espace intime qui sert d'espace d'exposition. Or, rétrospectivement, quand je revois la forêt ou tout simplement le parquet, c'est du même ordre. C'est-à-dire que la déconstruction qui a été faite de l'idée d'Alexandra d'un espace intime qui devient lieu d'exposition est aussi violente quelque part, même si elle est plus imperceptible, que celle qui est faite de l'idée de château dans le château. Et par rapport au monde, c'est pareil. Nous ne sommes pas dans un scénario de déconstruction, comme on pourrait penser, parce que ces idées-là ne sont pas déconstruites. Mais de l'autre côté, ça reste, si l'on veut, tout d'abord l'art. C'est-à-dire, ça reste de l'art, ça reste de l'architecture, ça reste de la scénographie. Mais de l'autre côté, ça reste. Au sens vraiment, c'est des restes de ça, mais des restes qui changent, qui donnent d'autres espaces. Alors, je voulais savoir si je délirais complètement, ou si c'était inconscient, ces procédés, ou s'il y avait quelque chose de cela.
Je pense que c'est de manière plus... Moins élaboré. Mais en même temps, je pense que quand on fait tout ça, on peut avoir tout à fait conscience que tout ce que tu viens dénoncer. Mais encore une fois, je pense que c'est même tout ce que tu viens dénoncer, c'est presque comme une conséquence d'autres postulats qu'on s'est peut-être posés comme départ, mais qui peuvent être aussi. Qui contiennent ces questions-là, évidemment, d'un bâtiment dans un autre, mais qui étaient presque en même temps.
Ce que je pense à Avignon dans Mademoiselle Julie, c'est de nouveau. Cette lumière qui arrive et qui brouille l'idée du jeu, l'idée de la visibilité de l'acteur, fonctionne encore une fois comme... Normalement, la lumière, c'est ce qui porte la lumière sur le plateau. Et là, ça porte tout à fait la lumière et à la fois devient une espèce d'obstacle ou de déclencheur, là aussi, d'un jeu différent.
Oui, il y avait le désir réellement de troubler la vision. Ouais. Puisqu'en fait, c'est sur le dernier quart du spectacle. Il y a une espèce de soleil qui se met à briller très fortement. Enfin, c'est une espèce de grand lustre au fond du plateau qui se met à briller et qui aveugle quasiment l'ensemble du public pendant voilà, presque 10 minutes, un quart d'heure, de manière intensément, où du coup il y a vraiment un travail sur la perception, où on démonte rapport traditionnel.
Il y a surtout la double façade qui est aussi un élément très important enfin, dans le projet, qui est vraiment un truc d'adgramme, comme ça, ça commence plus par un reflet.
Ah oui, un reflet, oui. C'est vrai qu'il y a un démontage de la en effet, mais je ne l'avais pas lu comme ça, mais, ouais. Mais c'est un vrai démontage du plateau, de la lecture du plateau, et c'est évident, et même d'une lecture d'un spectacle, puisque c'est quand même une lumière qui devient anti-spectacle, c'est vraiment une chose qui est...
Bah oui, oui.
Voilà, qui positionne finalement le spectateur ailleurs, il me semble. Alors en l'occurrence, est-ce que le château est démonté aussi?
Il y a quand même une pièce qui est importante, qui est une sorte d'espace un peu. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'était d'arriver à produire effectivement dans un petit château comme ça, qui n'a pas vraiment non plus de valeur architecturale, produire un espace moderne. Donc ce caractère moderne, il est évidemment sur des codes qu'on emploie, enfin qu'on les emploie pas comme des codes, mais qui sont en même temps. Là, il faut savoir que c'est des codes, c'est-à-dire que c'est une sorte de tube blanc avec un effet de cyclo, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ombre. Et puis donc c'est aussi un espace continu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rupture, pas de porte, pas de structure qui vienne fragmenter comme ça cet espace qui se finit dans une sorte de
il n'y a plus d'ombre dans un château, c'est quelque chose.
Ce qui est aussi intéressant, c'est d'amener un projet comme ça sur un raisonnement aussi tout à fait pas fondamentalement pervers quand on l'énonce, quoi. C'est-à-dire c'était le château est comme ça, il est tout petit, il y a tout ce programme à faire rentrer, et donc le caractère un peu comme ça tordu, il peut apparaître comme une conséquence, mais il n'a pas besoin d'être amené très fortement comme un principe. Ce qui fait aussi peut-être l'ambiguïté d'un projet comme ça, qui s'annonce pas lui-même comme subversif ou comme particulièrement déconstructant.
Oui, c'est vraiment, mais par contre, il y a un vrai rapport de corps qui est à l'inverse de son enveloppe. Une chose où, en effet, quand on est dans cet atelier, il y a disparition absolue. De la peau qui l'entoure, on ne sait plus du tout.
Oui, vrai et pas vrai, parce que oui, le dehors disparaît complètement, mais en même temps, par ce système de fenêtres, le dehors il est complètement là. Donc,
c'est ça qui est. Mais c'est la peau dont je parle.
Et il faut raconter qu'effectivement, à l'intérieur, il y a des couloirs.
Je pense que c'est ça, les fenêtres sont toutes fermées. L'intérêt, il est même plus que de s'affranchir totalement. Je pense que quand tu parles de la postmodernité, c'est plutôt on est là et en même temps là aussi. C'est-à-dire que c'est tout le temps de simultanéité. On est dans le château, on est à la civière, en même temps on n'y est pas, et en même temps on est dans ce tube blanc. Et c'est l'intérêt du projet, il n'est pas tant dans une rupture violente ou une surprise, c'est plutôt d'une ambiguïté permanente d'être là et là, d'être dans deux espaces qui sont réels, quoi, mais qui créent cette
contradiction.
Ça rejoint la question suivante, qui est sur les matériaux et sur les formes. Et justement, je voulais jouer le cas des mauvaises consciences, c'est-à-dire vous dire que je n'ai jamais trop bien compris, aujourd'hui vous pouviez peut-être me l'expliquer un peu plus, votre position ou proposition par rapport aux matériaux et aux formes. C'est-à-dire que, d'une part, on ne peut pas dire que vous fuyez les matériaux simples, parce qu'on voit bien dans les pièces, la céramique, les bois, le fer, le béton. Mais au moment où l'on s'attarde un peu à observer comment est mis en place leur fonctionnement, dans la distance où ils se tiennent, parce que c'est des matériaux qui se tiennent tout seuls dans une distance, tout d'un coup, on retrouve presque du matériau, celui qu'on a avant qu'on le travaille. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se retrouve projeté à une distance du matériau. On a l'impression qu'ils ne sont jamais délibérément rendus en tant que travaillés, mais qu'ils sont rendus à leur libre nature. Et pourtant, c'est paradoxal, parce qu'il n'y a pas plus artificiel. Par un geste très artificiel, mettre des colonnes de fer dans un appartement, vous nous rendez le fer tel qu'il est, c'est-à-dire plutôt à distance par rapport à nous. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une spatialisation, d'un ajustement, qui les tient, pour ainsi dire, en suspens. Alors, je me trompe, moi j'ai toujours la sensation que vos matériaux sont en suspens. Est-ce que cette sensation que j'ai est légitime déjà ou pas du tout? Vous ne vous identifiez pas du tout. Et si elle l'est, qu'est-ce que vous espérez qu'ils nous disent seuls, les matériaux? C'est-à-dire, comment vous les choisissez déjà?
Ben, moi, je trouve que c'est vrai. Non, mais après, justement, par rapport à ce qu'on a annoncé tout à l'heure, de ne pas kidnapper un moment des outils pour leur faire absolument un compte, je crois qu'il y a ça, de ne pas pervertir absolument tout le temps les formes. Donc effectivement, les matériaux racontent rien d'autre que ce qu'ils sont, ce qu'on peut y projeter, mais enfin, au préalable, ils racontent absolument rien, enfin, c'est ça.
Ou leur processus ça, d'usage, de fabrication, ce qu'ils peuvent raconter. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, on opère à chaque fois de manière assez simple ces matériaux, parfois le plus rudimentairement possible.
Le parquet, en l'occurrence, il a la couleur qu'il a, et il raconte effectivement... l'énorme infrastructure qui est le barrage de Massilière, il raconte ça, mais évidemment, il le raconte de manière comme ça, hyper indirecte. Il le raconte, mais dans une sorte de véracité qui est la sienne, qui est de constater.
Cette pièce-là, peut-être ça vaut la peine de la raconter. Parce que vraiment, vous pouvez peut-être un peu la raconter, parce que c'est une question que je vais poser plus tard. C'est vrai que pas tout le monde la connaît, et c'est vrai qu'il y a tout un travail de transformation des.
Alors le parquet, c'est une pièce qui était faite à partir des souches immergées dans le lac de Vassivière, parce que c'est un lac artificiel de 1950, et pour fabriquer un lac, ce qui se passe, c'est qu'on coupe tous les arbres de la vallée qui va être immergée, afin de pas avoir aucun obstacle à une potentialité de navigation sur le lac. Donc tout ce qui dépasse est coupé. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de partir de ce matériau qui a été comme ça immergé pendant presque 60 ans, et pris dans un état de nature par l'eau, de l'extraire de son milieu nouvel, de son milieu artificiel finalement, et de suivre tout un processus pour produire un objet, un artefact. Tout un processus qui aurait pu être industriel, mais qui en l'occurrence est produit de manière artisanale, pour fabriquer un parquet. Alors, il a été comme ça extrait, coupé en morceaux, réduit en poussière, tamisé, puis ensuite recompressé pour produire un artefact, comme des séries de lattes de parquet.
Ok.
Tu as raconté ?
Oui.
Quelque chose de très laborieux.
Oui. Qui est souvent dans vos pièces, il y a tout un travail. Celui-là, c'est peut-être le plus compliqué, mais pour d'autres, pour la carte aussi, il y a
oui, c'est laborieux, mais on n'essaye pas trop le montrer.
Ouais, ouais. L'autre chose, je voulais vous interroger un peu sur les agencements. C'est-à-dire que vous posez dans l'espace deux choses, l'une à côté de l'autre, vous avez l'impression qu'elles se concernent ou se distancient. Vous multipliez leurs agencements. En général, vous commencez à vous familiariser avec leurs qualités, leurs défauts. C'est-à-dire qu'on sent... nous on le sent comme spectateur, c'est-à-dire que vous avez déjà testé tout ça, ou en tout cas qu'il y a une grande maîtrise dans vos mises en espace, ça on le sent, même certains peuvent vous le reprocher, vous parlez d'architecture d'intérieur ou en tout cas d'une maîtrise très grande des matériaux. Mais de l'autre côté, il y a des choses, des mouvements qui sont pensés dans l'espace et qui sont pris dans ces agencements, qui sont presque suggérés aussi, si je peux dire, parce que chorégraphié au sens de certains gestes. Alors je me demandais si c'était du fantasme de vous prêter l'idée d'une chorégraphie ou éventuellement d'une gestion de la scène, telle que quand même, je sais, vous la connaissez très bien par des travaux que vous avez fait à théâtre, dans vos pièces, ou si ça reste quand même une de vos inquiétudes par rapport à l'art. Donc là, je suis plutôt vraiment sur les pièces et pas sur le reste. Celle d'imaginer des mouvements à l'intérieur de ces espaces de manière précise, c'est-à-dire de manière orientée, quelque part. Parce que j'essayais de comprendre jusqu'à quel point, dans cette maîtrise de la mise en forme, il y avait un contrôle du spectateur.
Finalement, une mise en scène des pièces en mise en œuvre. Au plateau, c'est inhérent, c'est-à-dire que ce qui se passe souvent, c'est qu'on dispose comme ça des scénarios d'usage. J'ai le sentiment qu'en architecture, c'est de la même manière. C'est des potentialités, mais qu'à un moment, on laisse quand même libre l'usage. C'est-à-dire que, une fois disposés les objets, soit ils sont manipulés, donc au théâtre évidemment, ils vont d'un point à un autre, ils circulent. Il y a une espèce de grille qui est disposée qui permet justement que ces choses-là se mettent en place. Et puis en l'occurrence pour l'architecture, c'est plutôt dans ce sens-là aussi qu'on travaille, c'est-à-dire c'est souvent des espaces qui sont déterminés, précis, dans ces formes et dans ces volumes, mais qui, à l'intérieur de ça, laisse encore une libre interprétation et l'usage le plus possible. C'est une espèce d'aller-retour entre ce que nous on propose et puis ensuite son application. Voilà, une espèce de mise à disposition.
Moi, je peux juste vous poser une dernière question. Peut-être on va laisser la parole aussi à ceux qui sont venus, qui ont peut-être d'autres. Je pensais que bon nombre de philosophes et d'artistes, même de très récents, je pense à Agamben ou à Félix González Torres, ont posé l'attention sur le corps, ont presque prétendu que le corps, à ce moment de l'histoire, dans notre culture, n'est plus défini seulement par sa chair, mais aussi par la loi, par la législation, par le langage, quelque part. Et entre les langages aussi, par l'architecture. Le passeport, par exemple, vous voyez bien tous les œuvres que Félix González Torres a pu imaginer, hein, sur cette identification très grande, qui est de plus en plus grande maintenant, à travers l'électronique, avec tous les outils, quelque part, d'identification qui existent. Et j'étais curieux de savoir, en voyant vos pièces, qu'est-ce qu'on voit réellement quand on voit le corps dans vos pièces. C'est-à-dire quelle place vous faites au corps sur la scène, quelle place vous faites au corps dans vos œuvres en tant que spectateur. Ou... Je le pense aussi, par exemple, par rapport à aux photos sur la perspective. Parce que quelque part, il me semble que cette, là aussi, ce démontage du point de vision rouvre des choses pour les corps qui ne sont pas immédiatement visibles. Donc j'étais curieux de savoir comment il intervenait dans les différentes disciplines, c'est-à-dire quelle place vous leur donnez. Parce que je sais aussi que vous répondez à des commandes autres. Je sais que vous êtes en ce moment, peut-être c'est l'occasion de parler des deux projets les plus récents qui ne sont pas immédiatement liés.
C'est pas ça.
Je pense à celui de la base et à celui de...
Là, c'est encore prématuré.
Mais en tout cas, quelle place vous leur faites? Parce que j'imagine que ça rentre de plus en plus, je pense, par exemple, par rapport au musée, par rapport à des endroits qui sont à forte connotation humaine.
Tout le temps, je pense que c'est tout simplement. Assez simplement, finalement, quand on revient à la question de l'espace, ta question est un peu initiale, évidemment, forcément, la question de l'espace, elle ne peut être que liée à l'évolution d'un corps dans l'espace. Donc après, c'est-à-dire que là, en même temps, c'était pas ce qui était marrant. Peut-être ici aussi, par exemple, sur le parquet, c'était pas du tout pensé plutôt, finalement, au préalable comme une installation en termes de dispositif spatial, mais plutôt comme c'était plutôt même pensé comme une sculpture, quoi. Et donc en même temps, tout en ayant conscience de la grande contrainte qu'elle posait dans l'espace. Parfois, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas déclarer comme ça une pièce comme ayant cet enjeu-là, mais qui puisse apparaître dans un second temps. Comme ça. Mais donc, évidemment, c'est
Non, mais à prendre position plus concrètement dans les sensibles, je veux dire, les corps, qu'est-ce qu'il fait pour vous au moment où vous dessinez vos espaces ou vos pièces parce que quand même, ça parle tout le temps de ça aussi.
Oui, donc, en l'occurrence, c'est vrai que l'exposition ne montre aucun corps, mais il y a une chose... Oui, c'est sous-jacent, évidemment, c'est-à-dire que... quand tu reviens sur les photos, tu penses à la position du corps du spectateur ou la position du corps...
À la position du regardeur. Parce que je me dis là, elle est éliminée, la position de maîtrise du perspective, quelque part. Ou en tout cas, moi, ça me dit aussi qu'il y a d'autres perspectives possibles. Et à la fois qu'il y a envie dans l'outil de contrôle que la perspective met en place. Donc,
la notion comme ça de la modernité aussi, elle est toujours forcément liée à ce paradigme d'une liberté de mouvement. Enfin, c'est bien que le principe de Corbusier, c'était l'idée d'avoir des espaces, enfin, un peu comme ça, repousser toujours la prochaine rupture, enfin, d'avoir des espaces un peu. C'est encore une fois, évidemment, c'est indissociable, quoi, mais... Donc évidemment, là, le rapport un peu pervers de revenir à une sorte de production d'un espace qui est encore plus contraint que l'espace déjà contraint, qui n'est pas moderne, dans lequel on se situe, raconte forcément littéralement comme ça une production de contrainte, quoi, mais qui est comme une sorte de prise de conscience de l'observeur qu'il est en train d'observer, enfin de sa propre... juste comme ça dans une conscience de sa propre évolution dans le sens littéral, d'évoluer quoi, dans l'espace.
Et j'étais aussi curieux, bon, j'ai quelques questions un peu plus méchantes, mais un peu plus tard, après je laisse un peu la parole publique, je termine pour l'instant sur une question un peu ancienne, c'est-à-dire obéir à l'occasion favorable au moment opportun est une règle que connaissent tous les bons artistes, parce qu'effectivement, il faut effectivement savoir à tout moment se mettre en situation de pensée, et cette situation de pensée, elle n'est pas prolongée, elle n'est jamais, je veux dire, on ne pense pas tout le temps. Hein. On en parlait encore aujourd'hui avec une amie philosophe, Antonia Birnbaum, on se disait vraiment, ce passage magnifique de Descartes, quand Descartes dit qu'au final, il a pensé toute sa vie quelques heures, et qu'après, il y a autre chose aussi qui nourrit et qui construit tout ça. Mais est-ce qu'il y a des occasions que vous regrettez d'avoir laissé passer? Voilà.
D'avoir raté des choses, hein. Tu veux dire des occasions
Mais, des travaux qui vous ont été proposés et auxquels vous n'avez pas répondu positivement, ou des
pièces de théâtre. C'est un petit peu de non, mais nous on est toujours oui.
Non, mais dans l'autre sens.
Là, ça ne me vient pas à l'esprit, mais non, je pense qu'à chaque fois, on est...
Pas de failles.
Pardon ?
Pas de failles.
Pas de failles, non, peut-être. Hein. Pas à cet endroit-là, peut-être. Non, il y en a ouais. Multiples, mais peut-être... Non, je pense qu'on est plutôt réactif à ce qui nous... Enfin, à quoi on se retrouve face à... Et qu'on a envie, à chaque fois, de retrouver, de produire un scénario... Dans chaque circonstance, donc il semble que quand on opère comme ça dans multiples champs, est-ce que du coup on pourrait avoir un regret d'opérer dans des champs qui nous manqueraient? Pour l'instant, c'est plutôt cette question là peut-être, mais
oui,
peut-être mais ça c'était à explorer. Enfin, je pense que en tout cas l'idée de la pratique comme ça un peu transversale des choses, on pourrait se dire qu'en effet on pourrait s'étendre encore dans d'autres
oui, au contraire on pourrait regretter de pas être plus efficace dans le choix de nom, quoi. Enfin, c'est aussi ça
le contraire.
Okay. Bon, je m'arrête là parce que peut-être il y a des questions que vous avez plus intéressantes que les miennes. je vais m'arrêter bien avant. Je sais pas. C'est l'occasion, c'est rare de...
Oui, il y a une chose, une question que j'aimerais bien vous poser et qu'on retrouve dans un certain nombre de vos travaux, que ce soit par exemple la scénographie qui avait été faite pour le spectacle de René Char, l'effet d'hypnose à la Cour d'honneur en 2007 à Avignon, où là il y avait très clairement une espèce de chaîne climatique qui avait été recréée dans la structure, donc qui recréait en fait différents climats, donc qui allait du plus froid au plus chaud, en passant par des climats humides, etc. Et que donc la scénographie était littéralement traversée par ça et travaillée par ça différemment en fonction du jour ou de la nuit, ou de la représentation même du temps du spectacle. Ou même là, le projet sur lequel vous travaillez à Vassivia, l'extension Vassivia, où vous énoncez en fait, un des grands principes que vous énoncez, c'est celui de cette espèce d'espace pensé comme un courant d'air, oui, où l'air circule d'une certaine manière, où l'air se fraye son passage, en tout cas la chose est mise en avant. Ou encore même, par exemple, l'installation qui est là, où c'est assez drôle parce que vous dites que vous avez mis une peinture donc, sur ces tubes en acier pour les protéger de l'environnement intérieur. Quoi. Donc là, c'est le contraste. Parce que c'est très clairement des éléments extérieurs qui sont censés justement pouvoir résister à des intempéries, à des choses assez rudes, mais là vous le mettez, enfin vous cherchez à le protéger de l'environnement intérieur.
Oui, c'est juste une manière d'essayer de raconter effectivement cette ambiguïté, cette manière d'entendre, enfin cette confusion. Donc évidemment c'est presque un peu anecdote. Enfin, ce qui était marrant dans la pièce, c'est que c'était aussi une manière de raconter presque un rapport micro-macro, parce qu'effectivement c'est en même temps la pièce la plus monumentale, et en même temps on insiste sur la description d'un élément qui est quasiment invisible. Enfin, c'est-à-dire que c'est plutôt travailler aussi sur un fantasme, quoi, qui serait celui d'un espace un peu invisible, qui serait corrosif, dans lequel on est tous ici, mais qui raconte aussi, je crois, comme on essaie de raconter avec cette pièce-là, l'ambiguïté d'un état qui n'est effectivement ni plus naturel ni plus artificiel. Et donc c'est cette mythologie qu'on vient un petit peu alimenter avec cette pièce-là.
Mais aussi sur celle-ci, où ouais. Bon, là on le voit moins, mais c'est une pièce qui fonctionne le jour et la nuit, mais surtout le jour, ça s'appelle Jour électrique, et qui joue justement sur ce rapport entre le mélange entre la lumière électrique très forte et la lumière naturelle, puisque en plein jour, en plus quand il y a le soleil qui rentre, etc. Donc il y a toujours ce rapport finalement entre un environnement intérieur, quel qu'il soit comme un appartement ou un château ou une scène, et un environnement extérieur qui est toujours plus ou moins, enfin souvent mis en avant, voilà, mais qui, et où finalement les choses s'inversent, c'est-à-dire l'élément qui serait naturel devient artificiel et l'artificiel devient
presque
serait mis en avant dans une forme
un peu de comme Vassilia, je pense qu'en fait c'est même peut-être plus qu'un renversement, c'est presque une superposition simultanée et immédiate comme ça de deux réalités. C'était un peu ça, ouais. Le White Cube dans Vassivière et tout le temps en même temps. Plutôt un enrichissement simultané d'une réalité comme ça.
Oui, c'est vraiment comme pointer ce qui nous entoure finalement, le climat, l'air, etc. Mais de le prendre comme un matériau autant comme une matière finalement, comme on se dit. De l'avoir comme un complément, en tout cas dans nos articulations de production. Et en l'occurrence, soit de le tordre, soit de le questionner, soit de le pointer. Et à chaque, bon, c'est vrai qu'à chaque, en tout cas, c'est un élément qui vient dans nos questions, mais on lui pose différentes questions à chaque fois. Il y a vraiment des choses comme ça. Des scénarios différents où on réaccentue, on souligne selon les cas. En l'occurrence, pour les feuillets d'hypnose, c'était une espèce d'habitat dans lequel toute l'équipe était comme ça, jouait dedans et en même temps habitait, était logée sur le plateau de la cour d'honneur. Et puis qui avait son autonomie comme ça climatique en réaction avec le climat environnant et en même temps en combinaison, il y a une espèce de double sens comme ça. Et à un endroit précis, il y avait par exemple, parce que c'est la cour d'honneur, donc c'est dans Avignon, il y a le Mistral qui vient, il y a notamment une direction qui vient fortement, qui vient pointer à un endroit de la cour, et nous on avait volontairement placé à l'intérieur du bâtiment, qui était placé à cet endroit-là, un micro Mistral, il y avait comme ça une espèce de mise en jeu, mise en abîme même du climat à l'intérieur du bâtiment. Voilà, il y avait comme ça des scénarios successifs qui produisaient. Ouais, voilà, vraiment, c'est un matériau qui est vraiment avec nous, qu'on a envie de traiter constamment comme ça, et qu'on questionne par différents points de vue. Oui.
On peut passer aux questions méchantes.
Ouais.
Ah là là.
Là, j'en ai encore une gentille. Par rapport au livre, je connais peu vos projets de publication. Est-ce que pour les livres, vous aimeriez vous prendre au jeu justement de cette
de partir.
Ouais. C'est parti. Non, c'est par curiosité parce que effectivement c'est un espace qui peut ressembler beaucoup à la scène, qui peut ressembler beaucoup à la ville. C'est un autre espace, c'est un autre lieu où l'espace a été maintes fois traité. Et du coup, je me disais.
L'expérience qu'on a eue, déjà au préalable, ça a été un livre qu'on a réalisé ensemble, Alexandra, qui était un livre sur le projet. À la cour d'honneur, on l'avait vraiment traité comme un champ d'exploration, comme une deuxième version du projet.
Ok.
Et
c'était
vraiment volontairement comme une deuxième étape au projet, donc on témoignait en partie du projet, mais il fallait que la question continue à évoluer, à produire de nouveaux scénarios et puis de nouveaux apports. Là, en l'occurrence, on devait imaginer un livre sur le travail dans sa globalité. Ça serait évidemment envisagé ce type de mise en œuvre, hein, c'est-à-dire de prendre l'outil livre. Alors, je sais pas, voilà, c'est bon.
Ouais.
On ne sait pas du tout encore quel scénario on va en faire, mais c'est vrai que
c'est encore un espace
potentiel, ouais. Évidemment. Mmh. Elle est méchante.
Ouais, j'ai juste une question méchante. Parce que je vous trouve très consensuel, quand même. C'est-à-dire que très peu de prise de risque, quand même. Maîtrise là aussi. Là. Alors, j'ai trouvé une citation de Voltaire, citée par Schlegel dans ses fragments, où il dit « Tous les genres sont bons, dit Voltaire, hors le genre ennuyeux. »
Hors les genres.
Hors les genres ennuyeux. Mais quel est donc le genre ennuyeux? Il est probablement plus vaste que tous les autres et bien des chemins doivent y mener. Le plus court est sans doute pour une heure de ne pas savoir à quel genre elle veut ou doit appartenir. Doute de Schlegel. Voltaire ne serait-il jamais passé par ces chemins? Question. Comment différenciez-vous vos multiples productions? C'est-à-dire, est-ce que cette question du genre est intéressante pour vous? Parce que vous la traitez d'une manière particulière, donc toi, la question n'est pas si méchante, mais c'est qu'est-ce que vous faites de la question du genre?
Ça va. Alors, on aimerait bien l'évacuer, évidemment, ouais. C'est une chose que
oui,
vous la rasez.
Voilà. Et quelles sont les conséquences? Parce que toi, je veux dire, socialement, politiquement, on fait tabula rasa, mais je voulais comprendre comment vous gériez cette tabula rasa de la question du genre. Déjà, je n'étais pas sûr que vous auriez répondu que vous faisiez tabula rasa de la question du genre. Et deuxième question, quel art vous ennuie? Quel est pour vous un art, le genre ennuyeux?
Ouais. C'est vrai. Et c'est que c'est l'idée de l'art comme ça, finalement, l'idée de l'art, elle est plutôt dans la. Elle n'est pas tendre, effectivement, dans le. Si enfin, la question du genre, elle est elle se pose à un moment où il n'y a pas d'exigence, enfin, c'est très prétentieux, mais la question de genre se pose quand il n'y a pas d'invention dans son propre champ. Mais évidemment, on pourrait commencer à considérer qu'effectivement, il y a toute pratique artistique à partir du moment où il y a effectivement une invention. Quoi. Enfin, donc, un cinéaste qui invente est un artiste.
Je ne le pensais pas seulement. Du point de vue, effectivement, bon, là, dans la citation, les gens, ça peut être les gens littéraires, on va dire. Mais je le pensais vraiment dans la question du genre, La question du genre, de la différence, de ce qui fait écart, qui fait espace, qui permet d'identifier les choses, de les faire rassembler à quelque chose, avec tous les drames que cette ressemblance parfois porte avec soi, toi, de comprendre à quoi on ressemble et comment cette ressemblance se met en place par rapport à. Au genre, ça peut être aussi féminin ou masculin, ça peut être homme-animal, ça peut être, toi, ça peut aller plus loin
ça
que...
Ça produirait comme ça un objet non identifié, tu peux dire, non identifiable.
Non, justement, j'avais l'impression que ce n'était pas ça. Mais justement, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que vous faisiez de cette question. C'est-à-dire, j'arrivais bien à voir que vous ne la gommiez pas. Ça m'a surpris quand tu m'as dit, mais ça on la gomme, parce que toi, tu pensais à l'autre, à une excellence dans les genres, mais ce n'était pas de ça. Mais du coup, j'arrivais bien à comprendre que vous n'en faisiez pas l'économie, parce qu'elle est quand même là, en suspens, ou elle est quand même parfois angoissante, ou parfois présente. Mais de l'autre côté, je n'arrive pas bien à comprendre si elle fait partie de vos inquiétudes ou pas du tout, ou si elle est là pour l'instant cachée, ou... Donc, c'est une question que j'aimerais aussi beaucoup poser à Philippe Ram, par exemple, pour inciter un autre. Notre ami qui travaille sur ces thèmes. Et donc, quand même, malgré tout, moi, je n'ai pas encore bien saisi quelque chose. Et le fait de ne pas avoir saisi, ce n'est pas forcément négatif. Ça m'est facile aussi.
Je crois que c'était caché, alors, parce que là, je n'avais pas découvert ça.
Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse et non, ça pourra venir plus tard, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça m'interpelle.
Alors, si tu le reformules, peut-être, parce que comme ça nous concerne, peut-être que ce n'est pas très clair, mais si tu le reformulais sur Philippe Ram, peut-être ça ne va pas.
Oui. Ben, Philippe, par exemple, quand il me semble troublant que dans ces espaces, soit-il des maisons, soit-il des jardins, soit-il tout simplement des espaces d'exposition qu'il a créés, il y a une certaine idée du neutre très forte qui s'affirme, et c'est très difficile à un moment de entre guillemets, de faire de la différence, d'identifier. Ça revient un peu par rapport à la question du corps que je posais avant. C'est-à-dire,
identifier.
Il y a une très forte neutralité.
Mais qui est une vraie identité,
qui est, justement. Qui est, oui,
qui est un choix, quoi.
Oui, ouais, développe. Donc c'est... cette neutralité, elle est l'identité, quelque part. Ouais.
Non,
évidemment,
c'est...
pas évidemment.
Toi, tu vois ça comme un... Parce que là, tu vois ça comme un retrait, quoi.
Non, pas comme un retrait. J'arrivais pas à comprendre. Je t'ai dit, je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre, même pas pour Philippe. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait de la question du genre? Quand même, la question du genre, c'est ce qui permet très souvent de décrire, d'identifier, de nommer, de se repérer quelque part aussi. Et ce suspense qui me semble aussi une grande qualité. Par exemple, si on parle de Philippe, c'est aussi la grande qualité de certaines de ses architectures, surtout, je pense à choses qu'il a fait au départ, certaines des choses qu'il faisait justement avec Gilles Clément, mais dans ses œuvres les plus récentes, je sens qu'il va quelque part, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait du genre.
Enfin, moi, j'ai le sentiment, enfin, ça paraît presque évident que c'est vraiment volontairement de...
Ça, il n'y a aucun doute, mais c'est volontaire de faire quoi?
Mais pour produire
c'est volontaire, j'aime bien compris.
Et je pense que le flottement est passionnant. Je pense qu'il n'y a pas de... Justement, ça propose d'autant plus de scénarios d'interprétation. Il y a une chose... plus de possibilités d'implication de la personne qui vit ces éléments, il me semble.
Oui.
Moi, je pense que c'est des, enfin, voilà, c'est des propositions de champ de liberté, finalement, enfin, il me semble. Hein.
Oui.
Okay. Enfin, en tout cas, si nous, on devait se poser cette question, elle est à cet endroit-là. Enfin, je crois que c'est tenter d'être le plus libre, quand on se retrouve dans un champ ou dans un genre, d'être le plus libre vis-à-vis de cette question de ce genre.
Okay. Ouais, et puis la pratique, en fait, de plusieurs champs, alors parfois, ça peut être justement... D'autant plus, finalement, insister sur un travail comme ça, qui finalement devient évident parce qu'on pratique plusieurs champs simultanés, du coup on ne voit plus que le... Pas tant les champs pratiqués, mais parfois aussi, finalement, ce qui est intéressant, c'est peut-être une mise en tension, du coup délibérée d'une pratique. Quand tu évoquais un projet sur lequel on travaillerait, qui serait un défilé de mode, effectivement, ce qui est là presque... Je ne sais pas si on va développer vraiment de manière la même chose notre travail comme ça, mais finalement là, presque du coup l'inverse, ça peut être de manière très amusée, ironique, mettre en tension le travail qui peut être développé ici, savoir qu'en même temps et que finalement il n'y a pas de temps d'hierarchie, quoi, c'est une simultanéité aussi de comme ça. De, pratiques qui ne sont pas que non plus des changements d'échelle, mais des changements même de...
Je pense qu'il y a un jeu...
De contexte, quoi, de très très différent.
Alors, on a toujours un petit peu derrière la tête ce scénario de Pardo, tu sais, pour cette maison qu'il a faite en Californie, où finalement il a convaincu le bord du lac, c'est pas le lac, mais c'est de l'autre musée à Los Angeles. Okay. C'est le Moca, ouais, je crois que c'est au Moca. Il avait aussi, il me semble, et il avait réussi à persuader de, et ça a pris beaucoup beaucoup d'années, hein, mais à dire je vais construire une maison, mais pas à côté du musée. Hein. Je vais construire une maison, mais carrément à l'autre côté de la Californie, auquel vous, peut-être que vous n'irez jamais voir, mais financer ça. Et ça sera une œuvre. Il y a une chose, carrément un scénario qui a été impensable pour le musée, quoi, des choses.
C'est pas vrai,
pardon.
C'est Michael Gowen, c'est Lacma.
C'est Lacma, pardon. Non mais ouais, c'est, enfin bref, c'était vraiment l'idée de d'un objet qui est totalement contradictoire à l'institution. Et ça, c'était vraiment une chose. Mais en plus, il en a eu l'usage. C'était de la perversion absolue, quoi. C'était vraiment. Et il en a toujours l'usage, je crois, non? Une espèce de tension absolue entre un objet produit et puis son genre.
Ouais. Ouais.
Et ça, moi, j'adore.
Oui. Reste en suspense, quelle est l'art et mieux.
Oui.
Mais bon, voilà, parfois, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui nous avaient publiées. Ou si on peut s'arrêter là. Hein?
Moi, j'ai une question sur le vocabulaire formel, votre vocabulaire formel, dans ce que je vois dans cette exposition et ce que j'ai vu à la Civière. il me semble que vous inscrivez vraiment dans un certain minimalisme. Là, je vois beaucoup de noir et blanc, de choses assez contenues, assez circonscrites.
C'est ennuyeuse.
Assez circonscrite, en tout cas, dans la forme. Et au contraire, votre pensée est très, très sensible, très poreuse, ce rapport au climat, à différents états. Et donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi cet attachement à des formes du minimalisme. Aujourd'hui, au XXIe siècle, après toute une histoire de l'art processuel, informel. Alors peut-être c'est juste ce que je vois là dans cette expo.
C'est comme ça tout le temps. Non, enfin, moi je pense que c'est pas forcément des rapports de minimalisme.
Alors effectivement il y a un doute peut-être sur cette pièce là, oui. Mais qui est d'autant qui
la matière est bien plus présente. Ouais. Que
en fait, finalement mais je pense que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de reprendre pour le coup des formes qui sont presque identifiées, mais qui racontent tout à fait autre chose. Enfin, c'est-à-dire que quand on raconte cette espèce d'ambiguïté d'un climat, c'est tout à fait autre chose que vraiment les fluos de Dodan Jod. Ouais. Et même si ça emprunte finalement presque les mêmes mises en œuvre
formelles.
On était en téléphone avec lui tout à l'heure, ça. Et donc voilà, non, en fait justement c'est ça qui est assez intéressant, c'est de faire du, enfin c'est pas minimaliste en fait.
Non, enfin je pense que c'est plutôt des rapports simples aux objets, et c'est pas forcément...
Mais pas non plus simple, enfin pas simple,
c'est
plus non plus simple.
C'est intéressant, c'est que Marianne, ce qui nous fait dans les châteaux, quand on entre, vous avez toutes les parties vécues par les corps, vraiment, donc là, les restaurants ou les appartements sont très accueillants, où la matière elle sort, et c'est très poétique, sensible, même si c'est très épouré et tout, mais il reste complètement une présence en nom du matériel, c'est très accueillant. Et la partie des artistes, c'est même pas minimal,
c'est
je dirais pas, je dirais, elle est hyper forte, hyper présente, donc on se pose la question, est-ce qu'un corps peut entrer, comment?
C'est intéressant.
Évidemment oui, vous avez pensé à ça, évidemment, mais c'est avec cette source en plus, il y a l'eau va entrer, va déborder. Et donc, en effet, quand tu arrives comme ça, il te semble minimal, et tu avais cité tout à l'heure postmoderne, donc c'est en effet votre clic automatique sont ailleurs. Sont, et dans les châteaux, et ça, vous faites avec Thomas Renaud, que vous avez à vos côtés, jusqu'à là ce soir à présent, vous avez créé un très bon mélange, et c'est assez atypique et c'est très courageux.
C'est une question d'autonomie et d'hétéronomie. C'est effectivement c'est ce rapport-là aussi qui a justement effacé le langage, parce que c'est vraiment entier, et commencer à mettre un dispositif qui puisse interroger d'autres choses.
Et en même temps, on n'est pas complètement naïf, c'est-à-dire qu'on voit très bien quand on est ne voulant pas manipuler des codes, on forcément c'est des codes.
Ça produit des codes.
Enfin, le why, c'est un mur blanc, on sait que c'est un code, mais c'est-à-dire que on ne l'utilise pas comme un code, mais même si on sait que ça véhicule du code. Donc justement, le Vassivière, s'il n'y avait pas ce patio et cet espace étrange extérieur, on serait dans le minimalisme, mais ce n'est pas du minimalisme, quoi. Donc finalement, la petite mythologie aussi racontée sur ces colonnes avec ce climat, et ce fait qu'on n'est jamais dans le minimalisme. Le parquet, il a un rapport comme ça hyper presque, c'est très laborieux. Effectivement,
C'est le processus. Donc, en l'occurrence, de la production qui nous passionne un peu.
Baroque.
C'est pas baroque.
Mais en même temps, c'est assez marrant quand terrifiant. Et on avait fait une autre lecture avec Vestal, et puis, alors, de manière amusée, mais il le pensait en partie. Il disait qu'effectivement, ça restait des espaces terrifiants. Effectivement, c'est peut-être terrifiant de beauté. Enfin, le côté un peu raide, c'est terrifiant on ne sait pas trop quoi faire avec. Quoi. Mais effectivement, ça va avec l'idée de la modernité. On sait pas quoi faire avec, mais au moins on est libre de rien, de pas savoir ce qu'on fait avec, quoi. Donc évidemment, c'est pourquoi on essaye d'enlever les signes, et en même temps, encore une fois, on sait que c'est d'autres, ça peut faire appel à d'autres signes, mais on a effectivement l'idée de plus pas avoir, on raconte pas d'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on les histoires émergent si ça marche, quoi, si ça fait sens chez le dans l'audience, puis si ça marche pas, c'est que ça marche pas. Mais on a effectivement, je crois que la modernité, elle est plutôt là, elle est dans de pas énoncer une histoire. On n'a pas d'histoire à raconter, mais l'histoire apparaît, elle doit apparaître librement et elles doivent pouvoir être multiples, quoi. Mais si c'est pas...
à la fois, c'est vrai que par rapport à un nombre de nos jours où il y a une espèce de fétichisme de l'imperfection ou. La vie de notre
qui est très très bien partagée dans la culture de l'art, enfin comme j'ai passé toute
sur ça. Voilà, oui, mais c'est très intéressant.
C'est fasciné par presque
la vie de notre
dogmatisme du pauvre, mais pas de l'arte populaire, mais vraiment un truc de
la facilité de l'interruption, de tout cela. Est-ce que moi, chez vous, n'est pas.
C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'ai rien contre, mais
c'est comme
tant que c'est pas. Si, je peux pas le faire comme un tic, comme une sorte de convention, quoi. C'est-à-dire que quand je la comprends pas. Donc en même temps là il y a pas de la mise en œuvre, si on n'est pas dans la virtuosité non plus.
Non, justement, il y a une espèce d'acceptation ou autre de l'imperfection. C'est curieux, je veux dire, ou du suspense ou de. Ouais. Je me demandais même d'ailleurs si vous n'étiez pas des lecteurs acharnés de science-fiction. Non, mais tu sais pourquoi ? Parce que j'essaie de comprendre d'où vient cette idée d'une suspension. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle vient du théâtre ? Est-ce qu'elle vient...
Elle vient de proposer...
Parce qu'elle est fascinante, quand même. Je veux dire, ça flotte tous vos espaces et il reste comme un suspense. Et ouais. C'est très, très beau. C'est-à-dire le Hollover, il est mental encore avant même que physiquement situé dans l'espace. Donc, j'essaie de comprendre s'il y a eu... Parce que quand même, vous êtes à deux, donc... Il y a peut-être un exercice de la pensée. Non, mais il y a peut-être un exercice de la pensée qui donne. Ça, mais c'est... il y a quelque chose de la construction d'un espace mental, quand même, qui est là dans les œuvres, et j'essaye de comprendre d'où il vient. Est-ce que vous en avez une idée ? Ou s'il y a peut-être dans l'art quelques. Ou pas dans l'art,
mais. Non, mais c'est juste d'arriver à produire multiples potentialités, c'est-à-dire que. Il n'y a pas de... Enfin, on revendique la chose qui n'est pas forcément univoque. Il y a...
Ouais. Non, mais c'est ce qu'on a déjà parlé, de l'idée comme ça de la mouvement de l'écho. Quoi. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas une histoire univoque comme ça. Il n'y a pas de, mm-hmm. C'est plutôt la qualité. Ça marche parfois, ça ne marche pas, mais c'est plutôt... comment ça peut développer des potentiels que nous-mêmes, à la limite, on ne connaît pas nous, enfin, au préalable. Quoi, donc, je pense qu'on doit partager ça avec beaucoup de gens. Hein. Ouais, peut-être pas les artistes français, je ne sais pas.
Mais... Ah non, bien sûr. Même à la rigueur, il y a une très grande modernité ou actualité de cette question, traitée comme ça. Je pense dans la mode, on en a parlé aussi, de Chalayan et de certains développements qu'il a fait de l'espace par rapport au défilé. Je sentais des proximités possibles, en tout cas des.
Oui. Et dans l'art, c'est ça la question.
Et la question, c'est ça.
Ouais.
Je sais pas. Non, mais c'est pas.
Hussein se situe dans l'art aussi. Hein.
Oui, bien sûr, mais.
Justement, il est dans le même questionnement.
La question du genre.
Moi, ça m'a vraiment frappé. C'est quand j'étais à voir l'exposition, que j'avais vu quelques défis avant, mais je suis assez longtemps et c'est vrai que ça m'a bouleversé. Effectivement, vous travaillez de deux manières différentes, mais sur la même question.
Oui, et puis c'est les mêmes interrogations du non-objet, mais qui est quand même une présence, c'est ça, vous parliez de Philippe Ram aussi,
ouais.
Je pense que vous avez plus de présence d'objet, enfin,
ouais.
Je ne sais pas comment
dire, ouais.
Mais de matérialité, je dirais. Et chez Hussein, c'est un peu la même chose. Il y a cette présence aussi d'objet, parce que j'ai travaillé avec lui sur Cinefilé, donc au moment où on a financé en fait les défilés, parce que ça m'intéressait de voir qu'il était juste dans cette peut-être
cette
rupture, voilà, ce passage entre la mode pure, l'objet, le vêtement, mais le vêtement est déjà une sculpture, mais plus classique si je peux dire, et puis c'est l'installation qui fait cette espèce d'interstice et de rupture. Et c'est là qu'il a placé, je pense, son travail d'artiste. Et ça, c'était assez intéressant de le voir évoluer, puisque c'était au début, en fait, de sa carrière. Et je crois que c'était intéressant de voir comment, justement, il a maintenu ses fonctions, mais le monde de la mode est encore peut-être plus dur que celui de l'architecture, c'est-à-dire qu'il oblige à choisir. Je pense peut-être l'architecture l'oblige moins, je ne sais pas.
Non, pas vous en sentez.
Lui aussi.
Demandez à Philippe,
mais j'ai l'impression que c'est pas le chemin le plus facile.
Non.
Il vient de décrocher un projet où il va construire, oui. Mais c'est après 20 ans de réflexion.
Oui, mais il y a
réflexion.
Les mêmes réflexions de François Roche aussi.
Bien sûr,
tout, oui. Je pense,
oui, c'est vrai que François Roche, on n'a pas
parlé. Oui, parce que c'est pareil, c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé parce que ça m'intéressait de les faire rentrer dans le champ d'un musée. Une collection, parce que justement il me posait des questions qui n'étaient pas celles d'une espèce de visibilité classique de l'histoire de l'art. Je ne sais pas comment dire. Ce que j'aime, c'est ce qui échappe. et donc ils m'ont apporté à ce moment-là des réponses. Mais quand vous disiez que vous ne compreniez pas, ne vous faites pas de soucis, moi non plus.
Mais c'est pas grave, hein. On avait la chance de voir qu'il nous accompagnait plus que nous.
Voilà, c'est ça, parce que j'arrive pas, j'aime bien saisir et je n'arrive pas. Donc ce qui m'intéresse aussi chez eux, c'est cette fragilité. Et ça, à ce côté-là, je rejoins le minimal qu'on ne voit pas toujours de cette façon-là. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes minimales sont dans cette limite fragile. On croit que c'est extrêmement déterminé. Presque objectif absent du corps, pour le coup, et en fait c'est faux.
Mais c'est une très vieille critique qui
est sur... Et c'est pour ça que je crois que vous y voyez il y a des vrais liens.
On avait fait les mêmes critiques pendant des années au nouveau roman, qui était un truc complètement désincarné, une sorte d'autorité. Alors c'est tout le contraire.
Et c'est intéressant de revoir ça comme ça,
avec
des yeux pour...
Merci.
Merci à vous.
Merci.